carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Jean Cortot est peintre et poète. Il se signale par un art graphique où s'épanouissent en symbiose écriture et peinture. Ses toiles sont habitées de phylactères modernes où mots, formules et vers de poètes de tout temps s'harmonisent aux couleurs de sa palette. Il s'offre le plaisir de côtoyer dans sa peinture les plus grands écrivains ou poètes. Citons Éluard, Valéry, pour n'en prendre que deux. Ces dernières années, l'œuvre de Dante a hanté Jean Cortot. 140 tableaux sont nés de cette rencontre quotidienne dans la solitude de l'atelier. Pour nous guider dans la divine comédie qu'il a fait sienne avec ses pinceaux, il a accepté de nous en parler à la galerie Évolution Pierre Cardin dans le 4e arrondissement de Paris. Le public pouvait voir l'ensemble de ses œuvres en mai 2010, pour la première fois exposée dans la totalité de ce long travail. Un catalogue doit paraître prochainement, préfacé par Jacqueline Risset, grande spécialiste et traductrice de Dante. Comment Jean Cortot a-t-il abordé cette œuvre majeure de la langue italienne ? Lecteur de Dante depuis ses jeunes années, c'est à l'âge de 80 ans qu'il s'est lancé dans ce voyage littéraire pour en offrir une lecture à l'image de ce monument de la poésie mondiale. Au fil des jours, depuis 2005, roulant ses feuilles, ses toiles, le travail accompli, un vers, un fragment chassant l'autre, il est parvenu à bout de cette foisonnante série. L'exposition permettait de voir l'œuvre dans sa totalité, cohérence, unité et diversité, un métissage entre poésie et peinture, dans lequel il excelle depuis bien longtemps. Jean Cortot, comment avez-vous d'abord découvert la Divine Comédie de Dante?
Écoutez, je crois que je ne peux pas dire que j'ai découvert cette œuvre. J'ai entendu dire autour de moi, quand j'étais enfant, je savais que Dante était un très grand poète. Il y a des gens qui sont tellement illustres qu'on ne peut pas les découvrir. On ne peut que tout d'un coup les rencontrer. Je ne peux pas vous dire que quand j'étais adolescent, j'étais un lecteur assidu de Dante, non. Mais j'avais conscience de son importance dans son siècle et dans les siècles qui ont suivi le sien.
Mais comment cet auteur vous a conquis ?
Eh bien, je crois d'une manière très simple, par visite. Mon père avait dans sa bibliothèque un ouvrage qui est là sur la table à côté de nous, que j'ai conservé, et qui est l'édition de 1512 de Cristoforo Landino, avec les gloses autour de l'œuvre. Enfin, autour des trois champs de l'enfer, du purgatoire et du paradis.
Et c'est un cadeau que vous avez fait votre père par cette édition ?
C'était un livre de sa bibliothèque. Voilà.
Dans les différentes lectures que vous avez probablement faites de la Divine Comédie aux différents âges de votre vie, y a-t-il un âge où vous avez particulièrement apprécié cette œuvre, où vous y avez été, disons, particulièrement sensible ?
Oui, mais c'est parce que, en somme, vous savez, Valéry, qui a occupé aussi une grande partie de ma vie, a dit quelque chose, l'homme de génie, c'est lui qui vous en donne. Alors, plus le temps passe, plus on a besoin de trouver, quand on a le sentiment de vouloir et de devoir d'une certaine manière, mais surtout de vouloir et de tenter de faire quelque chose à son tour, dans son domaine, on a besoin d'idées, de rencontres qui donnent un élément déclencheur à cette rencontre. Et alors, j'ai eu l'audace de penser à un moment que vraiment Dante, ce poète qui a écrit ce premier grand poème de la modernité, où toute sa vie, ses amours, ses désastres politiques, cet homme qui était à la fois illustre, qui a été tant de choses dans la ville de Florence, et qui a eu besoin de créer tout d'un coup une espèce d'immense poème où on pouvait mettre tout. Il a des continuateurs. Les grands poèmes récents dans notre temps, qui sont par exemple la chanson du mal-aimé d'Apollinaire, appartiennent à cette famille. La prose du Transsibérien de Blaise Cendrars également. Mais ça a été une espèce d'invention formidable de pouvoir tout dire, la politique, l'amour, mais qui étaient ses amis, qui étaient ses ennemis. Tout ça mêlé emporté par un flot d'un fleuve poétique. Et Dante a été une espèce de bateau ivre de son fleuve poétique.
Est-ce que vous diriez que c'est un texte qui appelle quand même à la réflexion, une certaine maturité ? Est-ce que vous auriez pu faire ces 138 tableaux plus jeunes ?
Je ne sais pas bien quoi vous répondre. A priori, non, parce que je n'étais pas à ce stade de me dire que finalement il fallait que je peigne un ensemble avec très peu de couleurs, finalement, alors que finalement j'ai toujours été plus engagé dans quelque chose d'un peu plus fort sur le plan coloré. Mais là, ce qu'on fait, vous fait en tout. Alors là, j'ai été fait grâce au ciel de Béatrice, parce que Dante... Enfin, j'ai l'air de me hausser du col, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais dans ce sens que, dans des tons de terre, parce que finalement, j'ai le sentiment que Dante, dans son voyage, à la fin de sa vie, de ce grand voyage poétique qu'il a fait avec son doux maître Virgile, était un voyage dans la mort, où il n'a vu que des morts, il était le seul vivant. Et donc, la mort, c'est la terre. Je ne suis pas sûr que ce soit fatalement du céruléum clair dans lequel le jaune de Phébus résonne. La mort, c'est un peu la terre. C'est pour ça que toute la dominante de ce doigt est là. Ou alors, dans une sorte d'obscurité, quand on descend plus encore, parce que c'est la privation même fatale de la lumière.
Donc la plupart des tableaux qu'on a sous les yeux sont dans ces dominantes de terre, d'ocre, légèrement, de gris même, de noir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sombres, loin de là. Et puis aussi presque des couleurs de pierre.
Oui, et la pierre, c'est le purgatoire.
Depuis quand vous aviez ce projet en tête, Jean Cortot ?
Écoutez, j'avais l'idée, mais je ne trouvais pas la circonstance. Vous savez, il faut, quand on pense qu'on a quelque chose à faire, il faut d'abord essayer de le faire et ensuite essayer parfois de s'en dégager pour faire autre chose. Alors, en fait, j'avais ça dans le cerveau reptilien, peut-être, alors en arrière de la tête, certainement. Mais j'ai dû hésiter. On a tendance à se lever dans ses habitudes et tout d'un coup, il y a un moment où il y a une espèce de cassure, une frontière qu'on franchit et on essaye de faire autre chose. Et ça a été un moment comme ça, après quelques années qui étaient consacrées à quelqu'un qui a aussi beaucoup compté, je crois, dans ma vie, de lecteur, et qui est Valérie. Mais enfin, tous les poètes, Blake, c'est tout ça, et de période, Giono.
Disons que c'est un projet que vous aviez depuis longtemps, depuis toujours, ou bien c'est maintenant, non ?
J'avais le sentiment que si j'y arrivais, j'irais là. Mais chaque chose en son temps, et finalement les contemporains, tous les poètes que je connaissais, Tardieu, Fresnaud, Queneau, Guivic, m'occupaient. Alors on veut pas. Et maintenant que, vous savez, comme disait Chateaubriand, tous mes jours sont des adieux, je suis arrivé à un âge où, dans la solitude, il y a tout d'un coup des choses qui remontent, comme ça. Et je pense que Dante a toujours été là, mais c'était un projet qui serait peut-être resté toujours à l'état de projet.
Vous avez travaillé sur ce projet combien de temps ?
5 ans, depuis 2005.
Jean Cortot, vous peignez sur des toiles à plat, sur des grandes tables, puis vous les roulez. En fait, vous n'avez pas vu le travail accompli de ces 138 toiles avant que cette exposition ne voie le jour. Il a fallu effectivement que vous tendiez toutes ces toiles sur des châssis.
Oui, parce que tout cet ensemble est... C'est vrai, était roulé dans mon atelier.
Qu'est-ce que ça vous a fait de les voir tous comme ça ?
Un mélange de plaisir de les voir, ni orgueilleux ni vaniteux, mais de plaisir de dire « Ah ben j'ai fait ça, c'est fait ». Et en même temps, une espèce d'inquiétude, parce que quand on s'habitue à voir quelque chose sur un mur, qu'on peut retourner, mais là, je ne les regardais pas, je les oubliais d'une certaine manière au fur et à mesure. Mais je savais qu'il y avait une addition, mais je ne savais pas que ces varves qui se déposaient au fil des mois dans les côtés de mon atelier, je ne savais pas s'il y avait une signifiance générale, etc. Et puis j'ai eu le sentiment qu'en tout cas, il y avait une tonalité générale qui montrait que c'était un projet qui avait été mené avec un certain cap qui a été suivi.
Qu'est-ce que vous a appris cette expérience sur ce travail sur Dante? Est-ce que dans votre peinture, il y a eu des choses nouvelles par rapport à votre façon de peindre quand vous illustriez d'autres auteurs?
Si je feuillette un peu des souvenirs comme ça, dans les années 60, j'ai eu un moment où je peignais dans ces mêmes tons. Pas du tout, il ne s'agissait pas du tout de Dante, il s'agissait de choses plus autres. Mais finalement, je n'y ai pas pensé, même jusqu'à maintenant que je vous le dis, parce que vous m'avez posé cette question. Merci d'être sourcière à ce point. Vous me faites sourdre. Une réponse, je ne sais pas bien quoi vous dire, mais en effet, il y a 40 ans, j'ai fait pendant un moment le goût de cette tonalité. Mais parce que j'avais des choses à dire qui demandaient ça, finalement, en somme. Et de toute manière, comme on a besoin de ce changement, dans la même mesure où on a besoin d'habitude. Mais il faut casser l'habitude par le changement et le changement par l'habitude. Voilà. C'est très pragmatique, ce que je vous dis. C'est pas très inventé. C'est très pragmatique.
Comment vous avez choisi les vers que vous avez peints ou que vous avez traduits en peinture? D'abord, il y a la question de la langue. En italien ou dans la traduction française, vous avez choisi le texte original.
Je pense plutôt choisir le vers en italien, que je comprenais, que je devinais un peu. Mais ça, c'est très facile, parce que c'est toujours pour tout le monde. J'ai fait beaucoup de livres avec des poètes. Finalement, d'une manière très prédatrice, il y a tout d'un coup des morceaux qui me plaisent. Et alors, on tire ça comme ça, avec une audace sans seconde, parce que vraiment, on ne devrait pas fracasser quelque chose de parfait et de fait en tirant quelque chose. Mais c'est ça, parce que finalement, quand on veut faire quelque chose, on a besoin, comme je vous le disais tout à l'heure, me semble-t-il, on a besoin de quelque chose qui vous déclenche et qui vous donne la volonté de faire quelque chose à votre tour, qui n'est pas du tout une duplication. Mais l'exemple qui vous est donné d'invention vous dit que, d'une manière modeste, à son tour, on a besoin d'inventer.
Parmi les trois textes du purgatoire, du paradis et de l'enfer, est-ce qu'il y en a un qui a votre préférence? Est-ce qu'il y en a un qui a dominé dans cette lecture que vous avez voulu donner en peinture?
Permettez-moi de vous répondre non. Parce que là, vraiment, je ne fais pas une grande différence entre... C'est la vie en général qu'ils regardaient avec tous ces morts. Et voilà, ils avaient fait leur temps. Il y a des moments d'ailleurs très extraordinaires, des moments où tout d'un coup, ils disaient dans ce temps... historiquement, bien avant Galiléo Galilei, par exemple, qui a dû abjurer parce qu'il disait des choses qui étaient contraires à la religion, lui disait à Virgile, qui était dans ce cas d'ailleurs, quelle est cette injustice des gens qui ne croyaient pas. Mais ils ne pouvaient pas croire, ça n'existait pas. Des gens qui n'ont pas été baptisés, mais le baptême n'existait pas. Comment est-ce que ça peut être quelque chose qui leur est reproché au point de les empêcher pour l'éternité? C'était incroyablement audacieux de dire ça dans ce moment. Mais il était évidemment un homme qui avait dû, je ne connais pas très exactement tous les détails de sa vie politique, mais qui devait avoir un courage politique, ça c'est évident, qui lui a valu d'ailleurs cet exil absolu jusqu'à sa fin.
Et dans le texte lui-même, en tant que lecteur, là, quels sont les thèmes qui vous ont le plus marqué? S'il y en a.
Oui, mais naturellement. Le rapport amoureux à Béatrice est d'extraordinairement général et dans ce sens d'extraordinairement souligné. Enfin, alors ça c'est une chose, mais tout le monde pense, j'imagine, réagit de la même manière. Mais en dehors de ça, c'était cette espèce de formidable faculté qu'ont les gens qui sont des écrivains, des poètes, de saisir tout d'un coup des ensembles de choses, tout en disant des choses qui peuvent être regardées comme des généralités, deviennent chaque fois, de la manière dont elles sont dites, quelque chose d'absolument singulier et de fort, et de très fort. Et ça, c'est... Dante a été un des poètes les plus illustres des gens connus. Il était un homme dans son temps, incroyablement illustre, incroyablement écarté, exilé, etc. Mais en même temps, la langue italienne, étant donné qu'il avait écrit en toscan, le toscan est rentré dans le système de la formation de la langue italienne, parce qu'il était un homme illustre.
Et vous, quand vous avez peint, vous avez travaillé à partir de quelle édition?
De l'édition de 1512, de l'édition de Landino, de Cristoforo Landino. qui a fait des gloses tout à fait connues et remarquables sur l'œuvre de Dante. Et alors je l'ai suivi et j'ai tout ramené à cette écriture, puisqu'il y avait plusieurs manières d'écrire les mêmes mots ou de faire les mêmes phrases ou des conjugaisons de verbes avec des petites différences dans la manière de traduire en écriture par les scribes selon l'italien qu'il parlait. J'ai suivi, j'ai tout ramené donc à cette écriture de cette édition de Landino.
Vous pourriez nous lire juste quelques vers là qu'on a sous les yeux ? C'est juste la première page.
Una leonza leggera e presta molto che di pel maculato era coperta. Voilà.
Vous l'avez pris ce vers ?
Là, il y a ce tableau-là que je vous indique là, et c'est ça. Voilà.
Un tableau qui est dans la première salle, qui est donc dans les couleurs effectivement brunes qu'on évoquait tout à l'heure, avec un fond un peu... Alors, c'est pas aussi simple que la panthère, évidemment, c'est la panthère vue par Jean Cortot. Et puis en son centre, un cercle dans lequel vous avez transcrit, enfin peint le vers.
De pel maculato dans ce sable, non ?
Alors, comment, vous avez déjà un peu dévoilé dans d'autres émissions, comment vous peignez ces vers-là ?
Je ne sais pas si je les peins ou si je tente de les dépeindre, parce que ce jeu de mots entre peindre et dépeindre m'appelle celui de Cocteau qui disait « Picasso se peint et De Chirico se dépeint ».
Donc on va peut-être aller voir ce tableau là-bas. Hein, allons-y. Devant une grande toile, parce qu'alors il n'y a pas de format particulier, hein, vous n'en avez pas souhaité, puisque c'est un extrait de plusieurs chants que vous avez mis ensemble, c'est-à-dire c'est une des rares toiles où il y a le plus de textes.
C'est une des toiles, oui, avec beaucoup de textes. Alors il y a une partie d'un chant et puis deux parties moindres des deux chants qui ont suivi, mais si vous voulez, sur le plan de la réalisation, c'est quelque chose que je vais faire d'une manière un peu dentelière. C'est un peu... Alors, ça n'est pas la dentelière comme Vermeer, mais le sujet ne se prêtait pas à ça. C'est une sorte de dentelle de scribe sur un fond sombre, mais en même temps un peu illuminé par le fait de cette ouverture sur ce plan de Valenciennes. Et voilà, ça a donné ça. J'aurais pu évidemment souhaiter... faire mieux encore, mais c'est dans ce sens-là que je voulais, que j'avais envie de faire ça.
Évoquons une autre toile avec au centre cette fois un grand cercle dans lequel il y a carrément non pas un seul vers, mais tout un extrait.
Plein d'écritures un peu en pattes de mouche, enfin c'est très, très fine, qui sont faites au pinceau, mais c'est très bon, et un fond un peu relativement brutal, une sorte de construction de... Qu'est-ce que ça pourrait être ? Je ne sais pas quoi, des bastins sur un fond. Enfin, il y a quelque chose de carcéral dans le fond et quelque chose de tranquille, j'imagine, un tranquillisant comme ça, jeté sur quelque chose de dur, de brutal, qui peut être une destruction ou une construction, je ne sais pas.
Alors, inversement, vous avez, dans d'autres toiles, choisi juste un vers où l'écriture... peut vraiment être tout au centre de la toile. Et puis là, on s'approche d'une autre grande toile, un peu plus grande que la précédente, avec trois cercles. Vous aimez bien là, mettre les vers dans les cercles, comme ça.
C'est des cercles ou des chemins, des bandes. Vous savez, les écrivains mettent leur texte dans un format qui est celui d'une page.
Hein ?
Et ben, nous aussi. Ben oui, c'est la même chose. Un tableau est aussi un format. et une graphie dans un tableau commande son format. Alors là, il y a trois choses, chacune ayant trait, je ne sais plus très bien à quoi, mais à plusieurs parties dedans, comme ça, mêlées, puisque le premier, c'est dit « Quando ti gioverà, dicele, io fui, fa che di noi, la gente favelle. » Alors ça, c'est un cri désespéré qui est dit à Dante par quelqu'un qui est mort et qui ne va pas sortir de son éternité ou d'enfermement dans cette mort comme ça, et qui lui dit que quand il te plaira de dire « j'ai été, je fus, fais que de nous les gens parlent ». C'est-à-dire que nous ne soyons pas oubliés. Ça, c'est un cri de la mort à la vie que représentait Dante et qui était le seul vivant dans ce monde de mort. Au milieu, alors Dante a un cri, alors tout à fait de vivant, qui revoit l'amour de sa jeunesse, dont il a fait en quelque sorte l'amour de sa vie, puisque très jeune, et qui est « Oh, Beatrice, dolce guida e cara », comme ça, comme qu'il a poussé plusieurs cris comme ça vers elle. Et voilà.
Et, alors, dans le troisième cercle.
Troisième, alors que guardami, Ianzi, vidi, ombra, commenti al color della pietra, non diversi. Alors, j'ai vu des ombres qui avaient des manteaux d'une couleur qui n'était pas autre que celle des pierres. C'est-à-dire des pierres dans lesquelles ils étaient enfouis dans des pierres, et ils avaient des manteaux qui avaient la même couleur, c'est-à-dire qu'ils étaient des condamnés. Enfin,
Qu'est-ce que vous pensez de ce texte, de ce voyage comme ça, à la rencontre de ceux qui sont partis, sur cette réflexion que mène Dante
et ce rapport métaphysique à la mort, qui est une interrogation de chacun si on pense à la mort. Et la vie est faite pour essayer de n'y pas penser, d'une certaine manière. Non, je veux dire, ça vous paraît trop peu spiritualiste, ce que je vous dis.
Non, je n'ai aucun jugement là-dessus, moi.
Non, parce que dans ce sens que... C'est ça, parce que, évidemment, si on pense que... Qu'est-ce que le bonheur ? Mais que le bonheur n'est pas ici, mais qu'il sera ailleurs, quelque part, mais que si on ne fait pas en sorte qu'il le soit, ce sera terrible. Tout ça, c'est très difficile à raisonner. Hein.
Vous-même, quel rapport vous avez avec la religion ?
Mais j'ai un rapport très naturel, je ne dresse pas mon point contre le ciel, mais je ne peux pas ne pas, à certains moments, comme Dante lui-même, se poser certaines questions. Quand je vous disais tout à l'heure, où est la justice, et puis vraiment, des éternités. Mais vous savez, l'abbé Munier, qui était un prêtre, enfin, qui dans les mémoires des gens, était un comme ça, était tout à fait dans le siècle, comme il était relativement mondain. Les dames du monde trouvaient un malin plaisir à lui poser des questions en disant « Mais est-ce que vous croyez, monsieur l'abbé, qu'il y a beaucoup de monde en enfer ?» Et l'abbé Munier, paraît-il, répondait « Écoutez, je suis un homme d'église, donc je crois au dogme, mais tel que j'ai pratiqué les pénitents par le biais de la confession, et d'une part, le temps que j'ai passé à penser au Très-Haut, fait que je crois qu'il n'y a personne. » Voilà, c'est une réponse à la Divine Comédie, non ?
Juste à côté, là, jouxte ce grand tableau avec les trois cercles qu'on vient d'évoquer, où là, les vers que vous avez inscrits
sont tout à fait religieux. Alors,
c'est religieux ?
Ben oui, regardez. Oui. Horribile furon li peccati miei. Horrible seront tes mal la bonté finita à si grand braccia. Mais la bonté infinie a de si grands bras. Oui, c'est exactement ce que disait l'abbé Munier. Voilà, alors ça, c'est la toile de l'abbé Munier. Je n'avais pas fait le rapprochement. Merci.
Mais là, elles sont très, très différentes, en tout cas, dans leur forme. Donc, on revient sur une toile un peu similaire à celle qu'on évoquait, avec trois cercles.
Où là, il dit, « Ah, serva Italia, ah, di dolore ostello, ah, Italie en esclavage, hôtel de douleur. » Dit l'Italie, hôtel de douleur. Et là, nave senza nocchiere, in grande tempesta, navire sans pilote dans une grande tempête, non donna di provincia, c'est-à-dire papa, quelqu'un, une dame de. Ma bordello!
On va monter peut-être pour évoquer deux autres toiles.
Ah, et là, il y a quelque chose.
Oui, venez. On est dans un lieu magnifique, là, baigné de soleil en plus.
Oui, ce puits de lumière est formidable. Hein.
Alors là, on est dans des toiles plus lumineuses. Est-ce qu'elles ont été réalisées chronologiquement à une autre période ou C'est pas non plus. Vous n'avez pas choisi de couleur en fonction des différents territoires de la Divine Comédie. Non. Dans des bleus, des roses, ça n'a rien à voir avec les toiles qu'on vient d'évoquer.
C'est une lumière d'enfer dans un ciel de. C'est mêler les choses. Quoi. Oui. Bon, enfin, mais je ne sais pas, c'est pas direct. Vous savez, c'est pas. On ne peut pas photographier ce qui est photographiable. Donc, ça n'est pas une photographie de quelque chose. C'est une approximation selon le jour, l'heure, le sujet, ce qu'on a et le reste. Non, c'est pas que je ne veux pas. Je souhaiterais vous répondre d'une manière très précise. Mais ça, c'est la part d'imprécision qui est à la fois les difficultés et en même temps, à certains moments, les petits moments de liberté qu'on a quand on essaie de faire quelque chose. Quoi. Et ça, de nouveau.
Alors là, on est devant une grande toile.
Béatrice en elle, en soi, et moi en elle, je la regardais, Béatrice en soi et moi en elle. Elle monte dans son voyage,
oui.
Avec la difficulté, mais elle apparaît de temps en temps.
Oui,
elle
oui,
est là,
oui, je sais.
Et chaque fois, c'est. Béatrice lui donne comme un danseur du ballon, la suspend. Il s'élève et il reste. Un petit moment avant de retomber en état de lévitation, et puis il repart. Et surtout, Virgile lui dit, l'incite formidablement. Magnifique courage, puisque Virgile fait partie des gens qui ne. Ouais. Non, non, mais des morts, de ceux que.
De l'Antiquité.
Oui, oui. Ils vivaient avant
le christianisme.
Sache, oui, avant les temps christiques.
Alors là,
De Cimabue, il fait de la critique d'art, il parle de Cimabue et de Giotto. Et là, alors, c'est dans un moment, je ne sais pas pourquoi, parce que dans le même moment, pas loin, il parlait de lui, d'un de ses confrères, qui était le poète Cavalcanti.
Voilà, ce sont deux petites toiles, et on y voit, en dehors des vers que vous avez transcrits de la Divine Comédie, deux petits...
Alors, Dante,
en bas,
et Cavalcanti sur l'autre. J'ai le rouge de la confusion, ce rouge-là,
oui,
et celui de la confusion,
ah bon.
D'avoir... de m'être permis de faire le portrait de Dante.
Et puis là, c'est... Oui, bon.
Enfin, j'ai essayé, là, de trouver une certaine paix et un certain raffinement qui faisait partie aussi de Dante. C'était un homme très, très complet.
Comment vous l'imaginez ?
Comme ça. C'est-à-dire très peu. Mais apparemment comme ça, parce que le côté bandeau... Mais je veux dire, c'est tellement répété que ça devait être comme ça un peu et c'est devenu comme ça complètement. Mais c'est le simulacre sur l'être vivant.
Pour finir, mais là, on est devant des toiles complètement différentes entre celles-ci qui n'ont pas du tout été réalisées au même moment. Et vous nous avez expliqué que l'accrochage ne respectait pas ni le texte, ni la chronologie dans laquelle vous les avez réalisées.
Il n'y a rien, ni de didactique, naturellement, ni de chronologique. Ce sont des tableaux destinés, en tout cas, je ne sais pas à la perdurance, mais en tout cas à la dispersion. Donc ils sont accrochés d'une manière sur les murs, comme chez vous, vous mettez tout d'un coup un tableau et un autre.
Et quand avez-vous décidé que ce long travail s'achèverait ? Le dernier que vous ayez peint,
Non, c'est un moment où tout d'un coup, on a un petit sentiment que le fruit est pressé et que tout d'un coup, il n'y a plus de jus. Alors peut-être ça peut être démenti parce que c'est tout d'un coup dans 6 mois. Mais là, en tout cas, dans le moment, j'étais arrivé un peu au bout. Pour différentes raisons, d'ailleurs, intérieures et extérieures aussi.
Est-ce que vous avez travaillé avant ce long travail sur la Divine Comédie, sur Dante ?
Mais un petit peu comme ça, mais d'une manière isolée, puisque j'ai toujours... Depuis des années, peint, je vous dis, avec des choses qui me donnaient envie de peindre, c'est-à-dire, comme les peintres de l'école de Barbizon avaient envie d'aller aux arbres, moi, j'ai toujours eu envie d'aller au texte. Alors ça, ce texte, mais vous voyez, il est en français, et je ne sais plus où je l'ai pris, comment il a été traduit, par qui, comment, et où il est, qui est, naturellement, il s'agit toujours de Béatrice, « Crier ton nom me réconforte ». C'est très simple. C'est très vrai, mais c'est vrai pour tout le temps et pour tout le monde. Hein.
Ah, c'est une petite toile de 1994, celle-là, donc voilà, bien antérieure à cette grande série.
Une dizaine d'années, voilà, et les autres, ça, là, il y a vraiment, dans le fond, j'essaie de faire un fond où il y a vraiment... Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Laissez toute espérance, vous qui entrez.
Vous l'ouvrez souvent, ce livre de Dante, maintenant ? quand même, après ce long travail.
Là, en ce moment, oui, parce que je suis en train de mettre derrière chaque tableau, de mettre
la référence,
le moment de ce vers, et même presque parfois la page d'une traduction, qui est celle de Jacqueline Risset, de manière à ce que les gens, s'ils ont le tableau, peuvent se référer en disant qu'est-ce qu'il dit s'ils veulent le savoir exactement. Et de là, partir pour lire plus loin, évidemment.
Vous avez appelé cette exposition « Une lecture de Dante ».
Modestement, la mienne. Mais c'est uniquement de la modestie, c'est pas de... Une, parce que ça, dire « lecture de Dante », c'est une. Et il y en a 1000 autres. Voilà, ça, c'est l'édition que vous avez la même.
Oui, oui, moi, c'est l'édition récente.
Je dirais que donc de cet ensemble, qui commence à disperser un peu, je demandais qu'on fasse toutes les photographies, tout cet ensemble est photographié, et je pense, dans les mois qui viennent, faire une sorte de petit livre avec ça. Et Jacqueline Risset, justement, m'a fait la gentillesse de me dire qu'elle écrirait un texte de présentation de cet ensemble.
Elle doit se régaler en voyant sous ses yeux Dante sur les murs.
Elle est venue une fois même, mais vous inversez la proposition, c'est moi qui suis dans cette situation. La tacci e lascia mover gli anni. Tais-toi et laisse les ans bouger.
Quand je vois 140 tableaux sur un texte, là en l'occurrence la Divine Comédie, ça me paraît être un travail différent de celui que vous faisiez quand vous faisiez un tableau d'un poème dédié sur un auteur. Là, c'est différent.
J'ai fait un ensemble sur 40 ans, sur Blake, sur Giono, sur Tardieu, sur Queneau.
Oui, mais il y avait une telle production aussi. C'était...
Giono, ça, je sais à peu près, parce que quand il y a eu l'incendie, j'ai su qu'il y avait un à subsister sur 75. C'était une exposition, il y avait 75 tableaux, des grands tableaux, et 74 ont disparu. Enfin, il y a des grands et des moyens, d'autres... Mais 74 ont disparu dans l'incendie. Alors donc, je savais que là, il y avait 75, comme ça. Blake, il y a eu, je ne sais plus combien, mais je sais qu'en tout cas, j'avais fait un ensemble qui s'appelait 34 variations pour un hommage à Blake. Donc, il y en avait 34.
Oui, c'est des ensembles, oui. Oui, mais là, c'est une grande partie, quoi. Voilà, c'est tout.
Valérie, c'était 169. Le catalogue comporte des choses avec des coffrets de livres aussi. Mais il y avait 169 choses dans l'exposition au musée Paul Valéry. À partir d'un certain moment, mais ça, l'idée d'ensemble, soyons simples, ça vient avec l'âge, parce qu'on est à la fois plus casanier dans ce qu'on fait, et pas du tout collectionneur de ce qu'on fait, mais on a une tendance à ne pas se presser sur le plan ou de la facture ou de la dispersion même.
Est-ce qu'il y a un grand poète auquel vous souhaiteriez vous attaquer ?
Il y a une question de vicinité. Il joue là. C'est pas que je me sente pas proche, que je comprends pas. Mais par exemple, je trouve qu'il est évident que je pourrais me dire Goethe, mais je ne suis pas un germaniste. Mais j'ai peint des grands tableaux qui étaient des fragments, naturellement, de conversations de Goethe avec Eckermann. Mais par exemple, je trouve que dans le temps, dans le XXe siècle, deux des très grands poètes qui ont vécu, à mon sens, c'est Pessoa, par exemple. J'ai fait des choses avec Pessoa, mais pas un ensemble complet, parce que je ne suis pas portugais, je ne sais pas d'une certaine manière, il y a des choses qui m'échappent. Mais Pessoa et T.S. Eliot, par exemple, que je trouve aussi un immense poète. Il y a un peintre que je trouve un très grand poète, qui est Monet, et je ne sais pas si je le ferai avant de me trouver à Patrès, mais depuis pas mal d'années, j'ai l'idée, parce que j'ai trouvé, pas exactement le format, mais ce sera grand, Nymphéa oblige, mais j'ai trouvé le titre qui est Thames, la Tamise, Thames is Money, ce qui est un mauvais jeu de mots, mais...
Très rock'n'roll.
Oui, qui s'est déclenché comme ça. Je voyais des toiles de Monet jeune, à 24 ans, peignant au bord de la Tamise, et je me suis dit, mais il a peint la Tamise toute sa vie, voilà.
Et vous vous peindrez des vers de poésie toute votre vie ?
Je suis un prédateur.
Je vous libère, Monsieur Cortot. Merci.